quand même quelques animaux qui sont symboliques comme le loup, parce qu'il était parti au moment, enfin dans les années 1850, quand les mines ont commencé à être développées, le loup a totalement disparu de la région. Donc c'est un peu un symbole, le retour
Et
de
il est
cet
revenu.
animal-là.
Et il est revenu.
Voilà.
Donc c'est le retour des loups maintenant que l'activité minière est terminée.
La bonne pioche. Les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes latitude.
Nemo, Noé, vous rentrez à peine d'Allemagne pour votre reportage latitude et vous vous êtes intéressé à une réserve naturelle sur une ancienne mine. Nemo, à quoi elle ressemble cette réserve?
C'est un territoire qui est assez lunaire. Déjà, c'est assez grand, ça fait 2000 hectares. Nous, on s'est baladé en voiture avec des scientifiques parce qu'il y a un parcours pour observer un peu la forêt, les lacs. C'est marrant parce que c'est assez diversifié comme territoire. D'un côté, il y a de la végétation, des arbres, des points d'eau. Et puis d'un autre côté, il y a des grandes dunes de sable sombre qui sont un peu hostiles, qui sont l'héritage de la mine. Puis pour couronner le tout, on tombe sur des lacs et puis des points d'eau rouge champ.
Et pourquoi il est rouge le lac ?
L'eau rouge, ça peut être un phénomène naturel, mais là, en l'occurrence, ça vient de la mine. Du coup, les excavatrices, elles ont un peu retiré les couches supérieures. Elles sont allées chercher le charbon en dessous. Et elles ont fait remonter des éléments chimiques qui étaient dans le sol, en fait, mais qui sont là naturellement en soi. Donc c'est du fer et du sulfate. Et en fait, quand on fait remonter ces éléments-là et que ça rentre en contact avec de l'eau ou de l'oxygène, ça s'oxyde. C'est la rouille sur le fer, quoi. Mais là, c'est dans l'eau et ça rend l'eau acide. Donc en fait, on se retrouve avec une eau qui est complètement rouge.
C'est-à-dire que quand on est dans cette réserve, il y a encore ces éléments de la mine. On ressent encore que la mine est en dessous, parce qu'elle est vraiment, enfin la réserve est vraiment construite sur la mine.
C'est ça.
Et du coup, toi, Nemo, est-ce que l'atmosphère, est-ce qu'on sent que la mine elle est dessous en fait?
Oui.
Déjà avec le lac, oui, j'imagine. Mais est-ce qu'on le ressent aussi quand on y est?
Oui, il y a beaucoup d'éléments qui le rappellent. Déjà, quand on est arrivé, on s'est garé sur le parking. Il y avait une immense infrastructure au loin qui plane un peu sur toute la réserve, qui est une ancienne machine d'extraction minière. Donc déjà, là, ça te rappelle que tu es sur un lieu qui n'est pas uniquement une réserve naturelle. Puis voilà, il y a les lacs et tout ça se mélange aux traces d'animaux. Il y en a beaucoup. Donc nous, on était à une période où il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux, par exemple, ou en tout cas, on ne les entend pas. Mais on voit des traces, et c'est assez curieux, parce qu'il n'y a aucune trace d'homme, finalement, alors que c'était un lieu qui était occupé.
Il y avait des milliers de personnes quotidiennement, et là, il n'y a quasiment plus personne, quoi.
Et là, il n'y a plus rien.
C'est vide, en fait. Ouais. C'est ça qui est frappant au début, quoi. C'est le silence, il n'y a rien.
Et est-ce que vous savez pourquoi ils ont laissé justement cette infrastructure dont tu parlais? Est-ce qu'ils l'ont laissé justement pour qu'on se souvienne que c'était une mine? Est-ce que c'est parce que dans le paysage c'est beau? J'en sais rien. Est-ce que vous avez eu des témoignages par rapport à ça?
Oui, du coup, en fait, c'est en Allemagne, quand une compagnie minière exploite un sol, elle est tenue de proposer un plan dès le moment, avant même d'exploiter, qui prépare l'après. Donc c'est soit des éléments historiques, soit une réhabilitation, une réhabilitation pour une réserve, soit une réhabilitation pour une utilisation agricole, quoi. Donc en l'occurrence, là, il y avait la réserve, c'est une partie, et cette grosse infrastructure là en métal, ce truc énorme, hein, c'est 80 mètres de haut sur 500 de large, c'est vraiment gros, impressionnant comme machine. Ça fait aussi partie du coup des traces historiques.
Mais c'est un musée. En fait,
d'accord.
C'est devenu un musée que tu peux visiter.
Nous, on est allé dessus d'ailleurs.
Voilà, nous on a visité.
Ouais.
Donc cette ancienne machine, ils en ont fait un musée. Et ils l'appellent d'ailleurs la Tour Eiffel du coin parce que c'est tout en métal. Ça ressemble un peu à une Tour Eiffel horizontale.
Tour Eiffel tombée, quoi.
Voilà.
Okay. Ça les a amusés de présenter.
Donc, le but de cette réserve, c'était pas de cacher la mine qui était là avant, c'était de transformer ce site tout en conservant la mémoire.
C'est ça. L'idée de base, c'est que c'est une fondation du coup, de conservation de la nature qui a racheté l'espace. Ils ont racheté l'espace une fois que les excavatrices avaient fait le minimum de terrassement. Donc ils ont remis les déblais en fait, parce qu'elle faisait 60 mètres de profondeur. Elle est revenue à moins 15 mètres. Et une fois qu'il y avait ce premier travail qu'ils ont fait, ils ont racheté l'espace et ont dit ok, nous on va faire le pari de juste laisser l'environnement se redévelopper tout seul. Donc on va rien toucher. C'est un peu, enfin, l'idée c'est Tchernobyl bis, quoi. C'est on laisse la nature revenir
et reprendre ses droits.
C'est ça, reprendre ses droits toute seule. Et après, quand on est sur site, pour revenir à ta question rapidement, je dirais que j'aurais pas deviné que c'était une mine, même si tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas justement avec certains espaces qui sont en fait beaucoup, du coup le sol est beaucoup plus acide et du coup il y a rien, des espaces où il y a rien qui pousse, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais j'aurais peut-être pas su dire si il y avait pas le
l'infrastructure aussi qui te rappelle ça,
ouais.
Parce qu'il le cache pas en fait que c'était une ancienne mine.
C'est écrit, c'est quand on arrive, il y a marqué ancien,
oui.
Ancien site minier.
Oui.
D'accord. Et en termes d'infrastructure, à part celle-ci, on peut, en fait, le lac Rougesang, si on le sait pas, on peut pas savoir que c'est
non.
À cause de la mine.
Bon, tu te questionnes quand
tu
même.
Tu te questionnes, tu dis il y a un truc qui va pas. Et tu parlais d'un fond de plusieurs dizaines de mètres qui a été un peu rebouché, je sais pas comment on pourrait dire.
Ouais, ils vont mettre les déblais.
Donc c'est quand même un parc qui est un peu en. Tu sens un peu que tu rentres dans une sorte de crevasse. Enfin.
Bah oui, d'ailleurs il y a des panneaux. On s'est rendu compte à la fin du reportage que certains panneaux dont on comprenait pas l'écriture parce qu'on ne parle pas allemand voulait dire que c'était un lieu dangereux et qu'il fallait pas traîner par là parce que justement le sol s'effondre.
Une partie du pari c'était du coup de laisser totalement la nature revenir, mais en contrepartie c'est pas casser ce processus en faisant des travaux
ouais.
Autres, donc pas de travaux de terrassement, juste bon, du coup il y a encore des risques de glissement de terrain, d'affaissement, etc. Bon, soit là, c'est un territoire très plat d'habitude, mais à l'endroit de la mine, il y a un peu des reliefs, parce qu'il y a quand même cet héritage-là. Quoi.
Et est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut plus accéder à cause de ces dangers ou...
Ouais, il y a une partie de la mine, justement, parce qu'elle est dangereuse, donc il y a toute une zone qui est totalement interdite.
Et vous savez ce qui est prévu pour est-ce que le but, du coup, c'est là peut-être intervenir un petit peu pour régler ça? Est-ce que c'est continuer de laisser faire totalement la nature et...
Pour l'instant, le pari, c'est de laisser faire. Mais
okay.
C'est sûr que, par exemple, pour les lacs acides, donc en soi, le lac en lui-même n'est pas totalement rouge, c'est plutôt la rivière qui l'amène et le bord des lacs qui est rouge. Mais pareil, c'est des questions qui se posent aussi parce que il y a des animaux qui viennent boire dedans. Voilà. Donc il y a quand même encore des conséquences qui restent de la mine, même si elles sont invisibles, en tout cas pour les problèmes d'affaissement de terrain, etc.
Et tu disais que les animaux buvaient dans cette rivière rouge, là, par exemple. Est-ce que le rouge, c'est juste... quand on le voit, ça paraît bizarre, mais est-ce que c'est grave quand les animaux sont là, par exemple, ou est-ce que c'est juste la couleur est-ce qu'il y a un danger, en fait, sanitaire?
C'est de l'eau acide. Donc, en soi, elle est chargée quand même en fer, elle est chargée en sulfate, enfin, en oxyde de fer et des composés sulfatés aussi, mais je saurais pas dire quelles conséquences directes ça a pour les animaux, mais je suis pas sûr que ce soit très bon. Ouais.
Et combien de temps ça a pris parce que du coup ils ont complètement laissé la nature. En gros le site ferme. Si on reprend un petit peu l'histoire, le site ferme quelle année à peu près?
2003-2004. Enfin les dernières mines en 92 et quand ils ont racheté la zone en 2003-2004.
Donc il y avait déjà eu 10 ans sans activité minière. Et ensuite, quand ils rachètent, donc il y a à peu près 20 ans, ils décident de laisser complètement la nature reprendre ses droits. Est-ce que c'est que maintenant que ça y est, la réserve est vraiment naturelle? Donc est-ce qu'il a fallu 20 ans? Enfin, combien de temps ça a pris à peu près pour que ça devienne une réserve et pour que le site minier disparaisse un peu petit à petit
C'est graduel, mais en soi, de ce qu'on nous a dit sur place, le processus il a été assez rapide à cet endroit-là. Quand même. Ils ont été assez surpris de la vitesse à laquelle... la nature se remettait en marche, donc c'est vraiment un processus, on repart de zéro pour le coup, et ensuite il y a un truc qui s'appelle le processus de succession, donc en fait c'est les premiers animaux, donc les premières plantes qui viennent, donc les pionniers en fait, on appelle ça espèces pionnières, et elles viennent coloniser l'endroit parce qu'il est libre, il y a de l'espace, pas de compétition, donc ils viennent sur le site, ça commence avec des animaux qui s'adaptent très bien à ces conditions-là, et petit à petit en fait chaque espèce... Elle lance un engrenage où une espèce prépare le terrain pour le deuxième. Par exemple, pour les plantes, on a au début de la mousse, par exemple, ensuite de l'herbe, viennent ensuite les petits arbres, les buissons, puis une forêt, etc. C'est un truc où c'est un cycle où une espèce de plante ou d'animal se développe, change les conditions, par exemple, les arbres, quand ils meurent, ça fait de la matière organique,
ouais.
Qui prépare le terrain pour la suite. Et petit à petit, comme ça, on construit un écosystème, en fait.
Donc là, on est encore dans ce processus, et donc c'est un territoire qui continue de se développer.
Ouais, okay. Ouais totalement.
Bah, les scientifiques nous expliquaient que ce sera jamais fini, fin, de
c'est
toute
ça.
Manière, tant qu'il peut y avoir de l'évolution, il y en aura. Mais après, le fait que... Parce qu'il y a des loups, en fait, dans le parc.
C'est la question que j'allais te poser,
voilà.
Justement. On parle d'animaux depuis le début, mais quels sont ces animaux, en fait, sur place?
Bah, y en a beaucoup, mais nous, ce qui nous a le plus surpris, c'est de voir des traces de loups. Donc, il y a des loups. Et c'est aussi un petit peu la fin, pas la fin, mais quand Noé parle du cycle de l'évolution du territoire et de la succession... Le loup, c'est le dernier grand prédateur qui vient enfermer un petit peu la boucle.
Le sommet de la chaîne alimentaire.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, nous, on a vu sur place des traces de loups.
Il y a quand même quelques animaux qui sont symboliques, comme le loup, parce qu'il était parti au moment, enfin, dans les années 1850, quand les mines ont commencé à être développées. Le loup a totalement disparu de la région. Donc, c'est un peu un symbole, le retour de cet animal.
Il est revenu. Voilà.
Donc, c'est le retour des loups, maintenant que l'activité minière est terminée. Comme tu disais, au départ, c'est des petites espèces et de la mousse, et en seulement 20-30 ans, les loups reviennent parce que l'espace est devenu propice pour eux.
Voilà.
Et donc, c'est le cœur de votre sujet, en fait.
C'est les
loups qui reprennent la mine maintenant que l'activité minière est terminée.
Voilà.
Et les loups, c'est aussi des louves.
Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on a discuté avec une des dames qui s'occupe de la communauté de loups sur la réserve, elle nous expliquait que bon, les loups, il y en a entre 3 et 5 sur le territoire par an. Les enfants partent une fois qu'ils ont grandi.
C'est à 2 ans.
À 2 ans, à peu près. Et le loup masculin, lui, change. Il y a eu plusieurs incidents qui ont fait que le couple de loups s'est séparé et le mâle a disparu plusieurs fois. Mais celle qui perdure, c'est une louve qui est là depuis 7-8 ans et qui finalement contrôle tout le territoire parce que c'est la seule louve. Et voilà, c'est assez marrant de se dire qu'à l'époque, c'était un territoire qui était, quand il y avait des mines, c'était un territoire qui était rempli d'hommes qui travaillaient à la mine et que maintenant, c'est vraiment désertique et il n'y a plus qu'une seule présence pionnière.
La gardienne
du lieu, c'est une figure féminine.
Est-ce que les gens là-bas lui ont donné un nom à cette louve? Non. Ah, c'est dommage.
On était déçus aussi. Elle a un numéro et la spécialiste des loups nous a même pas dit du coup le numéro.
Ok, ils ont juste donné un numéro.
Mais elle mériterait son nom.
Ouais.
C'est vrai.
En tout cas, pour en savoir plus sur cette louve, mais aussi sur cette réserve en général, votre reportage est disponible dans le magazine Latitude avec des très belles photos. Merci d'être passé dans la bonne pioche. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter, Latitude 2023. À bientôt, salut Noé, salut Nemo.
Merci Valentin.
La bonne pioche, les étudiants de l'ESJ Lille vous racontent leurs anecdotes Latitude.